5. Désormais convaincu à 99% que la camionnette était bien partie avant que Terry Maitland arrive à Dayton avec sa femme et ses filles, le 21 avril, Holly se rendit à l'Institut de la mémoire Iceman au volant de sa Prius. C'était un bâtiment de grès, bas et long, situé au milieu de 2 hectares de terrain bien entretenu. Un bosquet séparait l'Institut du Kindred Hospital, auquel il appartenait, et qui le gérait, de manière profitable, de toute évidence, car ça sentait le luxe.
Soit Peter Maitland possédait un confortable pécule, soit il avait une bonne assurance. Ou les deux,
songea Holly, impressionné. Sitôt dans la matinée, il y avait de nombreuses places libres sur le parking. Pourtant, Holly en choisit une tout au fond. Son Fitbit lui avait fixé un objectif de 12 000 pas par jour, et tout était bon à prendre. Elle s'arrêta une minute pour regarder 3 aides-soignantes promener 3 résidents. Dont un qui donnait l'impression de savoir où il était. Puis elle entra. Le hall, haut de plafond, était agréable, mais derrière les bonnes odeurs de cire et d'encaustique, Holly détecta des effluves d'urine provenant des profondeurs du bâtiment. Et autre chose, de plus capiteux. Cela aurait été ridicule et mélodramatique de parler de l'odeur de l'espoir perdu, mais pour Holly, c'était tout à fait ça.
Sans doute parce que j'ai passé presque toutes les premières années de ma vie à regarder le trou plutôt que les donuts. Pensa-t-elle.
Un écriteau placé sur le comptoir d'accueil indiquait « Tous les visiteurs doivent se présenter ». La femme assise au bureau, Madame Kelly, à en croire la petite plaque posée devant elle, accueillit Holly par un sourire chaleureux.
« Bonjour, vous désirez ?»
Jusqu'à présent, tout se passait normalement, sans anicroche. Les choses déraillèrent quand Holly demanda s'il était possible de rendre visite à Peter Maitland. Le sourire de Madame Kelly demeura sur ses lèvres, mais disparut de son regard.
« Vous êtes de la famille ?»« Non, je suis une amie de la famille. »
Ce n'était pas vraiment un mensonge, se dit-elle. Après tout, elle travaillait pour l'avocat de Madame Maitland. On pouvait donc parler d'une sorte d'amitié, non ? Puisqu'on l'avait engagée pour laver la réputation de feu le mari de la veuve.
« Je crains que ce ne soit pas suffisant, » dit Madame Kelly.
Dont le sourire, ou ce qu'il en restait, était de pure forme désormais.
« Si vous n'êtes pas de la famille, je me vois obligé de vous demander de partir. De toute façon, Monsieur Maitland ne saurait pas qui vous êtes. S'en est assez dégradé au cours de cet été. » « Uniquement cet été, ou depuis que Terry est venu le voir au printemps ?»
Cette fois, le sourire disparut totalement.
« Vous êtes journaliste ? Dans ce cas, la loi vous oblige à me le dire, et je vous demanderai de quitter les lieux immédiatement. » Si vous refusez, j'appellerai la sécurité pour vous faire expulser. Nous en avons plus qu'assez des individus de votre espèce.
Intéressant. Cela n'avait peut-être rien à voir avec l'affaire qui l'amenait. Ou peut-être que si. Cette femme était devenue agressive dès que Holly avait prononcé le nom de Peter Maitland.
Non, je ne suis pas journaliste. Soit, je vous crois sur parole. Mais si vous n'êtes pas de la famille, je dois quand même vous demander de partir. Très bien.
Holly s'éloigna 1 ou 2 pas. Puis, traversée par une idée, elle se retourna.
Supposons que je demande au fils de M. Maitland, Terry, de vous appeler pour se porter garant de moi. Ça vous irait ?
Sans doute, répondit Mme Kelly, réticente malgré tout.
Toutefois, il devra répondre à quelques questions pour me prouver que ce n'est pas un de vos collègues qui se fait passer pour M. Maitland. Je peux vous paraître paranoïaque, Madame Gibney, mais nous en avons vu de toutes les couleurs ici, et je prends mes responsabilités très au sérieux.
Je comprends.
Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça ne vous servira à rien de parler avec Peter. La police a pu s'en apercevoir. Il est atteint d'un Alzheimer au stade le plus avancé. Si vous contactez Monsieur Maitland Jr., il vous le dira.
Monsieur Maitland Jr. ne me dira rien, Madame Kelly, car il est mort depuis une semaine. Mais vous l'ignorez, n'est-ce pas ?
Quand la police a-t-elle tenté d'interroger Peter Maitland pour la dernière fois ? C'est l'ami de la famille qui vous pose la question.
Après réflexion, Madame Kelly dit
« Je ne vous crois pas et je ne répondrai pas à vos questions. »
À ce stade de la conversation, Bill se serait montré sympa et compréhensif. Madame Kelly et lui auraient peut-être même fini par échanger leurs adresses mail en promettant de rester en contact sur Facebook.
Hélas, si Holly possédait un excellent esprit de déduction, elle devait encore travailler ce que son psy appelait le sens du contact. Elle repartit, un peu abattue mais nullement découragée. Cette histoire devenait de plus en plus intéressante. 6. À 11h, en ce mardi matin ensoleillé, Holly, assise sur un banc du parc Andrew Dean, à l'ombre, sirotait un café latté provenant d'un Starbucks voisin, en repensant à son étrange entretien avec Madame Kelly. Cette femme ignorait que Terry était mort, comme les autres employés de l'Institut Iceman sans doute, et cela n'étonnait pas Holly autre mesure. Les meurtres de Frank Peterson et de Terry Maitland avaient été commis dans une petite ville à des centaines de kilomètres d'ici. En supposant qu'ils aient eu les honneurs de la presse nationale au cours de la semaine où un terroriste de l'État islamique avait abattu 8 personnes dans un centre commercial du Tennessee et où une tornade avait rasé une bourgade de l'Indiana, cela n'aurait été qu'un entrefilet fugace dans les profondeurs du Huffington Post. Et puis ce n'était pas comme si Marcy Maitland avait pu appeler son beau-père pour lui annoncer la triste nouvelle, compte tenu de l'état mental de celui-ci.
« Êtes-vous journaliste ?»
lui avait demandé Madame Kelly.
« Nous en avons plus qu'assez des individus de votre espèce. »
Donc, des journalistes étaient venus à l'Institut Iceman, la police également, et Madame Kelly, postée en première ligne, avait dû les affronter. Mais leurs questions ne concernaient pas Terry Maitland, car sinon elle aurait appris sa mort. Alors, pourquoi tout ce foutu ramdam? Holly poussa son gobelet de café, sortit son iPad de son sac à bandoulière, l'alluma et vérifia que la batterie était chargée, ce qui lui éviterait de retourner au Starbucks. Après s'être acquittée d'un droit d'entrée minime pour accéder aux archives du quotidien local, une somme qu'elle nota scrupuleusement dans ses frais, elle commença sa recherche à la date du 19 avril, jour où Merlin Cassidy avait abandonné la camionnette. Jour également où cette même camionnette avait sans doute été volée une seconde fois. Elle éplucha avec soin les infos locales sans trouver aucune mention de l'Institut de la mémoire. Idem pour les 5 jours suivants, même s'il y avait pléthore d'autres nouvelles, des accidents de voiture, 2 cambriolages, un incendie dans une boîte de nuit, une explosion dans une station-service, une affaire de détournement de fonds impliquant un fonctionnaire de l'enseignement, une battue afin de retrouver 2 sœurs, blanches, qui avaient disparu à Trotwood, non loin de là. Un officier de police accusé d'avoir tiré sur un adolescent, noir, non armé. La façade d'une synagogue souillée par une croix gammée. Et puis, le 25 avril, un gros titre en première page annonçait que Jolene et Amber Howard, les 2 sœurs de Trotwood, avaient été retrouvées mortes et mutilées dans un ravin, à proximité de leur domicile. Selon une source policière anonyme, les fillettes avaient subi des violences d'une incroyable sauvagerie. Et oui, elles avaient été agressées sexuellement. Terry Maitland se trouvait à Dayton le 25 avril. Certes, il était en famille, mais... Rien de nouveau le 26 avril, jour où Terry Maitland avait rendu visite à son père pour la dernière fois. Ni le 27, jour où la famille Maitland avait regagné Flint City en avion. Puis, le 28, la police annonçait qu'elle interrogeait un suspect potentiel. 2 jours plus tard, le suspect en question était arrêté. Un certain Heath Holmes, âgé de 34 ans, habitant à Dayton. Il travaillait en tant qu'aide-soignant à l'Institut Iceman. Holly reprit son café latté, en but la moitié en quelques longues gorgées, puis, les yeux écarquillés, elle contempla les profondeurs sombres du parc. Elle consulta son Fitbit. Son pouls galopait à 110 pulsations par minute, éperonné par la caféine, mais pas seulement. Elle replongea dans les archives du Daily News et fit défiler tout le mois de mai jusqu'en juin, en suivant le fil de l'histoire. Contrairement à Terry Maitland, Heath Holmes avait survécu à son inculpation, mais, à l'instar de Terry, Gianni Anderson aurait parlé de « convergence », lui non plus ne serait jamais jugé pour les meurtres de Jolene et d'Amber Howard. Il s'était suicidé à la prison de Montgomery le 7 juin. Holly consulta de nouveau son Fitbit. Son pouls était monté à 120, ce qui ne l'empêcha pas de vider d'un trait la fin de son café latté. Il fallait vivre dangereusement.
« Bill, j'aimerais tellement que tu sois avec moi sur ce coup-là. Tellement. Avec Jérôme aussi. À nous trois, on aurait pris cette affaire à bras-le-corps et on ne l'aurait pas lâché.
Hélas, Bill était mort, Jérôme était en Irlande, et elle ne parviendrait pas à percer ce mystère. Pas seule en tout cas. Cependant, cela ne voulait pas dire qu'elle en avait fini à Dayton. Pas tout à fait. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle commanda un sandwich au room service, tant pis pour la note de frais, et ouvrit son ordinateur. Elle ajouta ses dernières découvertes aux notes qu'elle avait prises durant sa conversation téléphonique avec Alec Pellé. Alors qu'elle les faisait défiler d'avant en arrière sur l'écran, un vieux dicton de sa mère s'immissa dans ses réflexions. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. La police de Dayton n'avait pas eu vent du meurtre de Frank Peterson, et la police de Flint City ignorait tout du meurtre des sœurs Howard. Rien de surprenant. Les deux crimes avaient été commis dans des régions différentes, à plusieurs mois d'intervalle. Nul ne savait que Terry Maitland s'était trouvé dans ces deux endroits, et nul ne connaissait le lien avec l'Institut de la mémoire Iceman. Chacune de ces affaires était traversée par une autoroute de l'information, et celle-ci était inondée à deux endroits, au minimum.
« Mais moi je sais, » dit Holly. « En partie du moins. Je sais. Seulement... »
Les coups frappés à la porte la firent sursauter. Elle alla ouvrir au garçon d'étage, signa la note, ajouta 10% de pourboire, après avoir vérifié que le service n'était pas compris, et le poussa dehors. Elle arpenta la chambre en grignotant son BLT, sans se soucier du goût qu'il avait. Que pourrait-elle encore découvrir? L'idée qu'il manquait les pièces au puzzle qu'elle tentait de reconstituer la tracassait, la hantait même. Elle ne pensait pas qu'Alec Pellé lui ait délibérément caché des choses. Mais peut-être jugeait-il certaines informations, des informations capitales, sans intérêt. Sans doute pouvait-elle appeler Madame Maitland, mais celle-ci se mettrait à pleurer, et Holly ne saurait pas comment la réconforter. Elle n'avait jamais su s'y prendre. Une seule fois récemment, elle avait aidé la sœur de Jérôme Robinson à traverser un moment difficile, mais en règle générale, elle était nulle dans ce domaine. De plus, la pauvre veuve aurait l'esprit embrumé par le chagrin, et elle aussi risquait de négliger des éléments importants, ces petits détails qui peuvent dessiner un tableau d'ensemble à partir de fragments, comme ces trois ou quatre pièces de puzzle qui tombent toujours par terre et vous empêchent de reconstituer la totalité de l'image tant que vous ne les avez pas retrouvées après les avoir cherchées partout. La personne la plus apte à connaître tous les détails, les petits comme les grands, était l'inspecteur qui avait interrogé la plupart des témoins et arrêté Maitland. Ayant travaillé avec Bill Hodges, Holly avait confiance dans les inspecteurs de police, même s'ils n'excellaient pas tous dans leur domaine, assurément. Ainsi, elle n'avait guère de respect pour Isabel Janes, l'équipière de Pete Huntley après que Bill avait pris sa retraite. Et cet inspecteur-là, Ralph Anderson, avait commis une grave erreur en arrêtant Maitland dans un lieu public. Néanmoins, un mauvais choix ne faisait pas nécessairement un mauvais flic. Et Pellé lui avait fait part des circonstances atténuantes. Terry Maitland avait côtoyé de près le fils d'Anderson. Par ailleurs, les interrogatoires paraissaient avoir été menés de manière rigoureuse. En conclusion, Holly se disait qu'Anderson était le mieux placé pour détenir les pièces manquantes. Cela méritait réflexion. En attendant, une seconde visite à l'Institut Iceman s'imposait. 7. Elle arriva à 14h30, en contournant le centre sur le côté gauche cette fois, là où des panneaux annonçaient « parking réservé au personnel » et « parking ambulance ne pas stationner ». Elle alla se garer tout au fond, en marche arrière, afin de pouvoir observer le bâtiment. Un quart d'heure plus tard, quelques voitures commencèrent à arriver, celles des employés qui travaillaient de 15 à 23 heures. Peu après 15 heures, le personnel de jour, des aides-soignantes principalement, quelques infirmières, deux hommes en costume, sans doute des médecins, s'en allèrent. Un des hommes en costume conduisait une Cadillac, l'autre une Porsche. Aucun doute, c'était bien des médecins. Holly jaugea soigneusement les autres employés et choisit sa cible. Une infirmière d'un certain âge vêtue d'une tunique ornée d'une multitude d'ours en peluche dansant. Elle possédait une vieille Honda Civic rouillée sur les côtés. Un feu arrière cassé avait été rafistolé avec du ruban adhésif épais. Un autocollant à moitié effacé, sur le pare-choc, proclamait « Je soutiens Hillary ». Avant de s'installer au volant, elle alluma une cigarette. La voiture était vieille et les cigarettes coûtaient cher. De mieux en mieux. Holly la suivit hors du parking, puis sur 5 kilomètres vers l'ouest. La ville céda la place à une agréable banlieue qui devint vite moins agréable. La femme pénétra dans l'allée d'un pavillon,
au milieu d'autres pavillons identiques, presque au coude à coude. Des jouets en plastique bon marché s'étaient échoués dans la plupart des minuscules jardins. Holly se gara le long du trottoir et pria pour avoir la force, la patience, la sagesse. Après quoi elle descendit de voiture.
« Madame l'infirmière, pardonnez-moi !»
La femme se retourna. Elle avait le visage ridé et les cheveux prématurément gris d'une grosse fumeuse. Difficile dès lors de lui donner un âge. 45 ans peut-être? 50? Pas d'alliance.
« Je peux vous aider. »«
Oui, et je vous paierai pour ça, » répondit Holly. « $100 en liquide si vous me parlez de Heath Holmes et de ses liens avec Peter Maitland. »
« Vous m'avez suivi depuis mon travail. »«
En fait, oui. »
La femme fronça les sourcils.
« Vous êtes journaliste. Madame Kelly nous a prévenu qu'une journaliste rôdait dans les parages. Elle a promis de renvoyer quiconque lui adressait la parole. »«
C'est bien de moi qu'il s'agit. Mais je ne suis pas journaliste. Je suis enquêtrice. Et Madame Kelly ne saura jamais que vous m'avez parlé. »«
Faites-moi voir une pièce d'identité. »
Holly lui montra son permis de conduire et une carte de l'agence Finders Keepers. La femme les examina attentivement, avant de les lui rendre.
« Candy Wilson. »«
Enchanté. »«
Tant mieux. Mais si je dois risquer ma place pour vous, ça vous coûtera $200. »
Après une pause, elle ajouta.
« 250. »«
Entendu, »
répondit Holly. Sans doute t'aurait-elle pu convaincre l'infirmière d'accepter $200, voire 150, mais elle ne savait pas marchander. « Barguigner », disait sa mère. Et puis, cette femme semblait en avoir besoin.
« Vous feriez mieux d'entrer, »
dit Wilson.
« Les voisins ont les oreilles qui traînent par ici. »